Qu'est-ce qu'une belle mort ? En regardant simplement dans le dictionnaire, on trouve que la belle mort désigne une mort naturelle et paisible. Et par cette prière qu'on disait autrefois, « Délivre-nous Seigneur d'une mort subite et imprévue », on voit bien que le désir profond de l'homme est de mourir en s'y étant préparé. Mais pourtant, nous entendons souvent des réflexions du type « Heureusement, il ne s'est pas vu mourir » ou bien « Il ne pouvait souhaiter plus belle mort » en parlant d'une personne fauchée dans l'exercice de sa passion. Et aujourd'hui encore, l'expression est polluée par l'exigence sociétale de « mourir dans la dignité ». Frère Joseph Thomas Pigny, nous nous retrouvons aujourd'hui avec vous pour parler de la belle mort. Je rappelle que vous êtes frère dominicain. Est-ce que la belle mort, c'est celle qu'on attend patiemment? Ou est-ce que c'est plutôt celle qui nous surprend? Ou est-ce que c'est encore celle qui est indolore?
Il y a eu sur ce sujet un changement absolument radical, à 180 degrés dans les mentalités. Comme vous le rappeliez, la terreur du chrétien, depuis toujours, jusqu'à récemment, c'est de mourir brusquement. C'est de mourir précisément sans le secours des sacrements, sans être entouré des siens, sans se voir partir, sans pouvoir adresser une dernière prière.
Sans préparation,
finalement. Alors qu'aujourd'hui, d'abord, belle mort, c'est presque une contradiction en soi pour les contemporains. La mort ne peut pas être belle. Une belle mort, ça n'est plus non plus cette mort faite par don de soi. C'est très difficile aujourd'hui de dire il a eu une belle mort au combat, par exemple. C'est ce qu'on disait également autrefois, que ça faisait partie des belles morts. Il y avait une belle manière de mourir, en sauvant quelqu'un, en se sacrifiant pour sa patrie. Donc tout ça est sorti un peu du champ, comme la mort, qu'il faut absolument faire sortir du champ, si ce n'est d'une manière extrêmement archaïque et barbare, pour essayer d'en exorciser de toute façon la peur incontournable et l'énigme incontournable en donnant de manière de plus en plus obscène des spectacles de mort et une culture du morbide dans laquelle le monde contemporain se complaît de manière tout à fait paradoxale, en fait. Alors pour un chrétien, évidemment, la perspective est bien sûr tout à fait différente, parce que c'est vrai, comme le disait le Concile dans la Constitution Gaudium et Spes, que là, effectivement, l'énigme de la condition humaine touche à son sommet. Mais pour le chrétien, il y a une perspective radicalement différente, qui part de trois constats fondamentaux, trois points absolument capitaux. Le premier, c'est que dans la foi, nous voyons cette mort qui a quelque chose de naturel parce que notre nature est limitée, qu'elle est finie. Nous la voyons, nous la comprenons comme le salaire du péché originel, la conséquence du péché originel, la conséquence de la perte de cet état de grâce originelle qui faisait que la grâce dans laquelle l'homme avait été créé, en quelque sorte, palliait cette faiblesse de sa nature corporelle, ou de la partie corporelle, matérielle de sa nature. Ensuite, du coup, qu'il y a aussi, ça c'est le deuxième point, une distinction à bien faire entre la mort physique et la mort éternelle, la fameuse seconde mort dont parle l'Apocalypse, la première mort et la seconde mort. Et que la mort la plus importante pour le chrétien n'est pas la mort physique.
Donc pas la mort du corps, finalement.
Non, c'est celle qui placerait son âme immortelle dans la situation de la non-vie d'un être immortel, c'est-à-dire dans la situation d'être radicalement
éternellement coupé de Dieu,
pour toujours coupé de Dieu, dans l'enfer. Et la troisième réalité, ou le troisième point absolument fondamental pour un chrétien, c'est que le chrétien adore et suit un Dieu qui est passé par la mort, Jésus-Christ. Il est passé par la même mort que les hommes et il l'a fait à dessein, dans le dessein d'amour et de salut miséricordieux de son Père. Du coup, dans le baptême, nous sommes déjà ensevelis dans la mort du Christ et nous revivons déjà dans la vie du Christ ressuscité. De sorte que pour nous, la mort physique, c'est cette suite, en quelque sorte, ce passage qui nous permet d'entrer dans la vie véritable. Lorsque nous disons dans la préface de la messe des défunts, la vie pour nous n'est pas détruite, mais elle est transformée, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Et du coup, ça met dans une belle perspective, et une perspective juste, tous les trésors de la spiritualité chrétienne. Je pense à la prière de saint François d'Assise. Oui. « Loué sois-tu, Seigneur, pour notre sœur la mort corporelle. Oui. » Hein? « Malheur à celui qui mourra dans le péché. » Ou ce texte extraordinaire et bouleversant d'Ignace d'Antioche aux Romains. « L'heure de mon enfantement est proche. Je deviendrai alors un homme. » Dire cela alors qu'on va être jeté aux bêtes, oui, c'est absolument extraordinaire.
Comme une nouvelle naissance. Hein,
c'est la nouvelle, ouais, naissance dont Jésus parle à Nicodème. C'est exactement celle-là. Alors ça veut dire quoi du coup la belle mort? Ça veut dire que notre vie terrestre étant une préparation à la vie véritable, sur un chemin vertueux et sur un chemin de vie de grâce, eh bien cette vie terrestre, elle inclut se préparer à cette rencontre, se préparer à la mort, en se préparant à cette familiarité de plus en plus grande avec Dieu, aussi en demandant, parce que ça sera de toute façon très difficile.
Donc naturellement, on demande la grâce d'une bonne mort.
Demander la grâce de ce qu'on appelait autrefois la persévérance finale. Ouais. Et alors ça, c'est un des trésors sortis du sein de Dieu. C'est la grâce de rester tourné vers lui en ce moment qui sera si difficile naturellement, mmh, et qui est une angoisse légitime. Et puis, donner sens à nos prières quotidiennes. Quand plusieurs fois par jour, trop machinalement sans doute, nous demandons à notre Mère du Ciel, oui, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Oui. Il faut penser aussi qu'à ce moment-là, elle sera là, quand on le lui aura demandé avec foi et dans un esprit filial, parce que son cœur de mère sera penché là et ses secours seront là. Saint Joseph sera là, le patron de la bonne mort, disait-on autrefois. Hein? Mais lui aussi est le gardien de l'âme, qui va être séparé du corps. Donc, il ne faut pas. Ça semble un peu vieillot tout ça, hein, mais c'est comme le péché, comme plein de choses. Mais pourtant, c'est l'essentiel qui se joue là. L'Église nous a ouvert des trésors. Hein. Il faut y puiser avec largesse.
Voilà, donc nous allons puiser avec largesse, comme vous dites, dans ces trésors de l'Église. Merci beaucoup, frère Joseph Thomas Pini.